Cinquième conférence de notre cycle de cette année. Ce soir, c'est comment agir avec un patient psychosomatique. Notre conférencier de ce soir est Patrick Vallas. Patrick Vallas est psychanalyste, membre de l'école de psychanalyse de Forum du champ lacanien. Il est l'auteur de nombreux écrits, dont le livre qui vient d'être publié récemment et que vous trouverez sur la table des libraires, qui s'appelle « Les dimensions de la jouissance, du mythe de la pulsion à la dérive de la jouissance ». Ce livre a été publié aux éditions du Champ lacanien et, comme je vous dis, vous le trouverez en librairie en général et ce soir sur la table des auteurs. Mais avant de vous donner la parole à Patrick Vallas, je vous rappelle quelques informations. D'abord, je vous rappelle que samedi 17 avril, eh bien, il y aura ici même, le 17 avril, dans 10 jours, Patrick Vallas va redonner ici même, donc de 14h à 18h, à nouveau, cette conférence « Comment agir avec les patients psychosomatiques ». Cette conférence sera suivie d'un échange de 3 heures avec la salle, et M. Vallas sera accompagné d'une collègue, bien prononcer son nom. D'accord. Marie Daisy Selon, qui est aussi psychanalyste. Je voulais également vous rappeler nos journées du mois de juin qui auront lieu cette année, qui sont les jeudis 24 juin et le vendredi 25 juin. Elles seront consacrées au thème de la psychothérapie et de la psychanalyse, différences et similitudes. Nous allons travailler le thème de la supervision, le psychodrame de l'adolescent, les psychothérapies parents-enfants et, comme je viens de dire, la distinction entre la technique de la psychanalyse et celle de la psychothérapie. Je vous rappelle enfin que la prochaine conférence de notre cycle aura lieu ici le mercredi 19 mai et le samedi 22 mai dans cette salle et il aura pour titre « Comment agir avec une patiente anorexique ». Bien, le moment est venu de donner la parole à Patrick Vallas.
Alors, d'abord, on entend là bien ?
Non.
Oui, alors, je dois d'abord remercier Jean-David Nazio qui m'invite à vous parler pour, je crois, la quatrième fois en presque 13 ans, ce qui fait à peu près une invitation tous les 3 ans. J'aime beaucoup intervenir pour vous et pour la psychanalyse, car ici vous êtes des auditeurs attentifs. Et vous m'avez toujours accueilli avec amitié et attention, pas seulement flottant. Jean-David et moi, nous nous connaissons depuis, je ne vais pas dire des années, 1972, mais j'ai pas compris. Hein. Il était intervenu, et je l'avais remarqué à l'époque, il était intervenu, peut-être pas pour la première fois, mais pour une fois où ça avait quand même remuer notre bocal psychanalytique de l'école freudienne de Paris sur le réel dont je vous parlerai un peu aujourd'hui. Effectivement, ce texte avait fait grand bruit, cette intervention, et Jean-David en avait obtenu un succès d'estime devant un aréopage de psychanalystes, je vais vous le dire comme ça rapidement, en pleine digestion de l'enseignement de Lacan, lequel proférait à son séminaire que c'était de la paille qu'il nous donnait à manger comme au restaurant universitaire, ajoutant qu'il fallait bien mâcher, l'avaler, puis la recracher plusieurs fois comme le chien de l'écriture. Ce qui vous explique pourquoi les Lacaniens passent leur temps à répéter les aphorismes de Lacan. Hein. Je disais ça parce que c'était la seule façon d'arriver à comprendre quelque chose de ce qu'il enseignait. Parce qu'il considérait quand même qu'autour de lui, ça roupillait beaucoup. Et donc Jean-Marie Bouzeau a quand même un peu réveillé les gens, parce que lui, il était bien réveillé. Lacan, lui, pourtant, ajoutait, en gros, qu'au fond, c'était des coups de marteau qu'il nous donnait sur la tête et qu'il ne comprenait pas pourquoi on restait là bien tranquille à l'écouter, hein, et que même il était très surpris de voir autant de monde à son séminaire. Voilà, ambiance. Hein. Eh bien, Jean-David, lui, nous faisait passer que le réel n'est pas la réalité. Et que le psychanalyste, dans sa pratique, y met de sa peau, c'est-à-dire de son propre réel, dans l'affrontement au réel du sujet. Car c'est bien du réel dont il s'agit dans la psychanalyse, le réel qui brûle, celui du sujet qui vient à nous parce qu'il souffre de son corps ou de son esprit, et qui nous demande n'importe quoi, n'importe comment, pourvu que ça cesse. Évidemment, nous, on se pose la question de savoir comment y répondre. C'est la question centrale de l'analyse. Mais Jean-David n'en est pas resté là. Il ne s'est pas contenté d'être reconnu publiquement par Lacan, comme le faisaient beaucoup à cette époque. Il doit s'en souvenir. Il a poursuivi sa route, et quelques années plus tard, il a remis ça, invité par Lacan à son séminaire, dans un de ses derniers séminaires, où il a parlé du sujet. Parlé du sujet à l'époque, justement, de l'Odyssée lacanienne borroméenne, qui évidemment nous plongeait tous un peu dans la perplexité, parce qu'on se demandait où était le sujet d'Lacan. Alors, Jean-David en avait donné des éléments très importants à l'époque. Et puis aussi, il faut dire que, contrairement à la plupart des gens, Nasio a aussi travaillé avec Françoise Dolto et Serge Leclerc, qui étaient sûrement les deux plus grandes figures, les plus proches de Lacan et même de la psychanalyse, on peut dire. Il a publié avec un livre de Serge Leclerc, enfin, Le Cador, c'est ça, hein, Le Cador, il y a tout à fait à relire parce que c'est encore actuel, ça. Et voilà pourquoi il a pu vous enseigner l'amour de la psychanalyse, et voilà pourquoi vous êtes un public si chaleureux. Alors, comme je vais complimenter, comme ça, je vais quand même lui poser une question. Pourquoi maintenant à parler de la psychosomatique, alors que tu sais qu'au fond, moi, je suis plutôt sceptique là-dessus? D'ailleurs, j'ai tout fait justement pour qu'on ne me prenne pas du tout pour un psychosomaticien, puisque j'ai écrit le dernier article sur cette question que j'avais décidé de produire, qui s'appelle « Un fétiche pour les ignorants ». Vous voyez, la psychosomatique. Il y a eu l'effet de produire un silence de mort et très peu de réactions d'enthousiasme devant une pareille charge. Et puis, bon, je voulais aussi vous présenter Marie Desisselin, qui me secondera le samedi 17. Elle est, comme moi, membre de l'école de psychanalyse des forums du Champagnat, et nous travaillons ensemble depuis plusieurs années, et puis j'espère encore d'autres années qui vont venir. Voilà. Alors, elle a publié récemment une thèse sur l'autisme infantile et un article qui est paru dans notre revue sur un cas également d'autisme infantile. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Mais pas par la porte, ni par la porte que vous attendez. Puisque ce soir, je vais parler très peu de psychosomatique. Je vais vous parler de la science. Alors, pour faire la science, disons que ce n'est pas dans la pulsation de la nature que nous sommes entrés. Nous avons fait jouer des petites lettres et des chiffres, par exemple E égale MC2, et c'est avec ça que nous construisons des machines qui marchent, qui volent, qui se déplacent dans le monde et qui vont même très loin, pouvant même parfois produire des dégâts très considérables. J'évoque simplement là les missiles, hein, que vous avez quand même entendu parler. Ces choses-là que nous avons inventées ont leur organisation propre. Et cela, c'est la science moderne qui n'a plus rien à voir avec ce que nous avons pu rêver depuis le début de l'humanité sous le registre de la connaissance, en spécialement de la philosophie, par exemple, qui n'est pas la science, même s'il existe une philosophie de la science. La science, Lacan l'a fait, la science moderne, il l'a fait partir avec Descartes, mais au fond, elle a vraiment pris son essor au moment de l'invention de la machine à calculer moderne, que Lacan considère comme une des plus dangereuses inventions du XXe siècle, du début du XXe siècle. La machine à calculer moderne, qui n'est pas du tout l'équivalent du boulier chinois. Tout à fait autre chose. Et bien, les ordinateurs viennent de là. Alors, bien sûr, ces machines-là ne marchent pas tout seules. Elles nous appareillent, ces machines, mais quand même, c'est le sujet qui a la main et qui gagnera sur ces gadgets. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour nos enfants qui sont beaucoup addicts des ordinateurs parce qu'ils sont en train de chercher l'invention d'un nouveau mode de vie que nous, peut-être, nos générations, en tout cas la mienne, on ne peut pas vraiment imaginer. Hein. J'ai été très frappé de voir cette montée de la mode des mangas, comme ça. Si vous avez regardé de près de quoi il s'agit, ce sont toujours des histoires de chevalerie et d'amour pour tout. Donc, manifestement, il y a dans ces générations une recherche éthique, une tentative de se repérer dans ce monde fou dans lequel nous vivons et qui court, on ne sait pas où. Alors, jusqu'à nouvel ordre, si vous voulez, il n'y a aucun moyen de faire un pont entre les formes les plus évoluées des organes d'un organisme vivant et cette organisation de la science. Surtout quand on s'engage, comme elle le fait, dans les impasses du réductionnisme. Alors, réductionnisme d'abord organique, ensuite tissulaire, ensuite cellulaire, ensuite moléculaire, ensuite particulaire et ensuite quantique. On va toujours chercher l'élément de plus en plus petit pour essayer de trouver l'élément qui nous donnerait la clé du monde. Alors, il y a peut-être un rapport entre ces machines et l'organisation du vivant, mais quand même, le cerveau, si vous voulez, quand on l'étudie, on sait bien qu'il y a des tubes, des lignes, des connexions, mais le cerveau humain, malgré tout, c'est beaucoup plus riche que nous avons pu construire comme machine. Alors, du coup, on peut se demander pourquoi ça ne fonctionne pas de la même façon, contrairement à ce que nous racontent ou tentent de nous raconter les neurosciences, même les plus pointues. Pourquoi ne faisons-nous pas, nous aussi, en quelques secondes, 3 milliards d'opérations, d'additions, de multiplications, etc. Alors que nous avons beaucoup plus de choses qui se véhiculent dans notre cerveau. Vous connaissez tous le phénomène des débiles calculateurs qui, eux, apparemment, calculent comme des machines. Et vous connaissez cette aventure de Kasparov à la fin du siècle dernier, qui était le plus grand joueur d'échecs et probablement de tous les temps, qu'on a finalement affronté à un ordinateur, et l'ordinateur a fini par le battre. C'est-à-dire que c'est un ordinateur extrêmement puissant, et Kasparov n'a pas voulu remettre ça parce qu'on lui a proposé une revanche, parce que ça l'avait complètement épuisé. En tout cas, c'est plutôt en faveur du sujet humain, ça. Hein, parce que ça suggère que tout ce qui est de l'ordre de notre pensée est peut-être comme la prise d'un certain nombre d'effets du langage, avec lesquels nous opérons de façon moins performante que les machines. Pourrions espérer faire aussi bien qu'elle, puisque c'est nous qui les permettons. Et manifestement, le cerveau ne fonctionne pas de la même façon, et vous comprenez dans quelle impasse sont les neurosciences, avec leur application clinique du comportementalisme, qui n'est en définitive rien d'autre que l'apprentissage forcé, surmoïque, du réflexe conditionné, par injonction. Alors, on peut toujours penser ou dire que les rats pensent, hein, qu'ils parlent, pourquoi pas, parce que c'est ce qu'ils disent, c'est écrit dans leur tête, et que les mouches rêvent. Ça, c'est pas une histoire fausse que je vous raconte, puisqu'il y a des gens qui ont mis des électrodes dans le cerveau des mouches, je ne sais pas comment ils font, et ils ont étudié des courbes, ils en ont déduit que les mouches rêvent. On n'a pas vu le contenu vraiment de ces rêves publiés, mais enfin c'est comme ça, les rêves. Et alors là, je vais vous donner quelque chose qui est très fort quand même. Figurez-vous que ces gens-là ont découvert le gène de la fidélité conjugale. Alors tenez-vous bien, chez le campagnol des prairies du Canada. Personne ne sait ce que c'est qu'un campagnol des prairies du Canada, mais eux, ils l'ont étudié, et c'est chez lui qu'ils ont trouvé ce gène. Et donc, il y aurait à cause de ce gène de la fidélité conjugale une sorte d'animation d'un récepteur de la vasopressine qui interviendrait justement dans des manifestations sexuelles de fidélité de ce fameux campagnol. Et on apprend, alors ça a été publié dans Figaro, hein, la page science du Figaro, on apprend depuis des années des chercheurs suédois, hein, c'est-à-dire quand même des gens qui sont dans un pays où on a fait plusieurs révolutions culturelles. Ils sont sur la piste d'un gène de la fidélité amoureuse, c'est ce compagnon, ce compagnon. Et la réponse, ils la connaissent depuis 1993, mais ils ont attendu 2007 pour publier ça, parce qu'il fallait préparer les gens à ça. Hein. Et là, vous voyez, on a toute une chaîne signifiante. Hein. Le gène, et même l'essengène de la science, et puis la vasopressine, c'est-à-dire la vasude, et même les campagnols, pour dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, on ne peut pas écrire mieux, hein, vraiment, on ne peut pas faire mieux que ça. Hein. Et voilà comment un savoir dans le réel est véhiculé par la langue, que j'écris en un seul mot comme je l'ai dit, peut se lire, comme nous avons appris à le faire, comme psychanalyste. C'est-à-dire entendre un peu de traviole, ce que nous disent nos analyseurs. Du coup, moi, ça me fait comprendre le conseil que nous donnait Lacan en nous disant qu'il ne fallait pas dénoncer le désordre du monde parce que ça ne faisait que le renforcer et qu'il fallait y lire le patou qui cesse de ne pas s'écrire. c'est-à-dire la contingence de la rencontre qui rompt l'automatisme de la nécessité. Et tous ces articles-là, vous comprenez, sont écrits dans les revues où l'impact factor est très élevé. Vous savez ce que c'est que l'impact factor ? C'est que quand un scientifique publie dans des revues, il gagne des points, et plus il a de points, plus il publiera, et plus il aura de crédit pour faire des recherches. Donc, les revues que vous connaissez, le journal of Medicine, New England Journal of Medicine, Lancet, Nature. Et c'est publié ces travaux-là, hein, du gène de la fidélité, sans la moindre objection du côté des sciences de l'être. Personne ne dit. Quand ces scientifiques-là s'associent avec les politiques, le politique, au pire, ils commettent des abominations. Au mieux, ça peut arriver que c'est un peu mieux, les politiques, les dits experts d'un savoir bien normé, se convoquent mutuellement à la télévision pour faire de la com. On blablate, et on se retrouve après une page de pub, comme on dit, sur les chaînes télé. Il n'y a pas une seule chaîne télé sans une série sur les experts, pour nous déverser sur la tête des informations, pour nous foutre la trouille. Dernière en date, la grippe A. Et même les sciences dures, se laisse aller parfois à des excès étranges dans ce qui est aujourd'hui à la pointe de la recherche, c'est-à-dire la physique nucléaire, celle du quanta. Alors, le quanta, j'en dis deux mots pour que vous sachiez que c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un truc, c'est une théorie extrêmement complexe qui essaye d'élucider le paradoxe qui conjoint une théorie corpusculaire avec une théorie ondulatoire de la lumière. Vous allez voir où ça mène. On ne peut pas ignorer que Lacan est allé voir de très près à Saclay pour l'informer de ce qui se passait là. Et moi, je vous évoque le dernier Andrac, le cyclotron géant, vous savez, qui fait, je crois, 100 km de diamètre. Et où on a l'intention, ça s'appelle le LHS, on va faire se percuter des particules lancées les unes contre les autres à deux fois la vitesse de la lumière. 600 000 km/s. En tout cas, je peux vous dire, et vous le savez tous, le cyclotron, qui a été inauguré il y a plus de 2 ans, n'a pas pu fonctionner parce qu'il est tombé en panne dès son allumage. Et pour l'ouvrir et découvrir où est la panne, il faut attendre 6 mois pour qu'il se refroidisse. Et en plus, si on arrive à le réparer, ce qui n'est pas certain, il va falloir presque autant de temps pour qu'il se réchauffe. Donc on a le temps, on a encore un petit souci, parce que voilà ce que je vous annonce. Parce qu'il y a deux hypothèses dans ce point de vue. Ou bien le choc entre ces deux particules à deux fois la vitesse de la lumière va produire un trou noir et tout notre univers sera englouti avec vous tous et peut-être bien moi aussi. Ou bien les nouvelles particules feront le pont, parce que c'est ça qu'on cherche, entre la matière et l'esprit. Il y en a déjà qui ont été nommés comme tels, hein. Par exemple, ça va s'ajouter à ce qu'on appelle les psychons. Déjà isolés, et puis il y en a d'autres qu'on nous annonce, ce sont des bosons, moi je les appelle des bésons, ils n'ont pas encore été prouvés, mais on suppose qu'ils vont
être. Patrick, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont parties, parce que on attend la question de la psychosomatique.
Vous êtes en train quand même de poser les jalons.
Oui, j'ai bien compris. Mais si on pouvait passer, sauter les jalons, et venir à la psychosomatique, beaucoup de gens, ils ont fait beaucoup d'efforts pour être là ce soir. Et je le sais, je me sens solidaire de ça. Donc, ils attendent pouvoir entendre ou débattre sur la question de la psychosomatique.
Bon, alors, je termine ce petit passage parce que ça me paraît tout à fait important.
C'est fondamental.
Ces rapports entre l'esprit et le corps, justement. C'est pour ça que je suis obligé de développer ces choses-là, pour que vous compreniez quelle est la position que nous allons prendre à l'égard de cette histoire-là.
Si on pouvait...
Il est en plein derrière. Non,
je peux raccourcir.
Oui.
Je raccourcis.
Oui.
Vous voulez aller à la psychosomatique directe?
Oui.
C'est trop dur, ça?
Non.
Non, c'est sympathique. Tu as une sympathie, tu as un charme, mais pas pour tous. Il y a des gens qui s'en vont.
C'est trop jungien. C'est trop jungien, en fait.
D'accord.
Bon, alors ça va être plus difficile pour moi, parce que forcément, si je me prive de tous mes arguments, je voudrais quand même rajouter un tout petit disons que les progrès en biologie, je vais dire très simplement, ne viennent pas des neurosciences, mais viennent des chercheurs sur le HIV et sur le sida. Voilà, je vous le dis comme ça, parce que ces gens-là sont toujours restés enracinés dans la clinique de l'homme. Et ils sont obligés d'avancer des choses très sérieuses parce que ça nous menace au titre d'un danger mortel. Et ils ont découvert qu'il n'y a aucun lien entre le génotype et le phénotype. Et même plus, le phénotype, c'est-à-dire la forme, l'image, probablement conditionne le génotype. Ça veut dire que nous, dans la psychanalyse, qui manions le stade du miroir, on a peut-être des choses à dire sur comment fonctionne justement l'image du corps dans la constitution d'un organisme. Voilà. Alors, je vous dis ça comme ça, et puis, bon, je vais passer à... Demain, je sais pas. Alors, la psychosomatique, page 17. Vous allez voir pourquoi j'ai fait des cours, mais tant pis, vous en entendez. Freud ne fait jamais usage du terme de psychosomatique. Pourquoi j'y viens si tard? En revanche, on sait qu'il cherche à inscrire son inconscient via ce qu'il appelle les pulsions mythiques dans le biologique. Mais Freud ne s'égare pas. Il ne loge pas l'inconscient dans les neurones, car il sait que le cerveau est une glande. Et que c'est une glande parce que les neurones ne sont pas faits pour penser. Contrairement à ce que nous racontent certains neurones. Le cerveau ne s'use que si l'on s'en sert, non pas le contraire. Rassurez-vous, vous avez plusieurs dizaines de milliards de neurones, et même si vous travaillez avec acharnement pendant 120 années de lecture des écrits de Lacan qui sont illisibles, il vous en restera suffisamment assez pour être constitué pour chacun une banque des neurones pour le reste de toute l'humanité. Alors, quant à Lacan, il a une théorie très élaborée de la psychosomatique. Pour lui, l'induction psychique des lésions corporelles serait liée à un défaut langagier central. C'est la psychosomatique, ça, pratiquement ? Je peux y aller, là ? Le signifiant, qui normalement s'articule en chaîne, évidemment des concaténations signifiantes, eh bien, dans le cas de la psychosomatique, dit Lacan, cette chaîne se gélifie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de coagulation langagière et qui produit ce qu'on appelle des holophrases. Alors, je ne vais pas chercher la définition des holophrases chez les linguistes, mais telle que nous la définissons, qui sont en gros des mots valises, hein, qui veulent, je vais vous en donner tout à l'heure, qui veulent tout dire et par conséquent qu'ils ne veulent rien dire du tout. Je ferai aussi remarquer que malgré cette théorie très très élaborée, il n'y a pas chez Lacan le moindre exemple de maladie psychosomatique, comme chez Freud. Il a vaguement parlé au début des années 50 d'hémorragie rétro-rétinienne en cas d'hypertension artérielle, et une fois vers la fin de ses séminaires, il avait mal au dos et s'est posé la question de savoir si c'était psychosomatique et qu'il avait mal parce qu'il n'avait pas très envie de faire son séminaire, et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, alors, il est très difficile de démontrer l'induction langagière des lésions corporelles. Très difficile. Moi, je n'ai trouvé aucun exemple nulle part. Toutes ces maladies dites psychosomatiques, dont la médecine nous dresse parfois la liste, on les retrouve chez tous les animaux, à quelques variantes près. Et vous savez que maintenant, on est en train de découvrir qu'il y a beaucoup de maladies animales qui subissent des transformations et qui se transmettent à l'homme. Donc, autrefois, on pensait qu'il y avait un clivage radical. Maintenant, on s'aperçoit que non, il y a des ponts. Par conséquent, il faut être extrêmement prudent pour avancer cette hypothèse de la psychosomatique. Donc de son induction signifiante pour certaines maladies dont j'attends qu'on m'en donne des exemples. Et je vais vous donner un exemple à contrario. Pendant très longtemps, l'ulcère de l'estomac a dominé tous les tableaux, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est lié à une bactérie qui s'appelle l'hélicobactère et qui se soigne très bien avec les antibiotiques, et que par conséquent, l'ulcère régresse très rapidement avec des traitements comme ça, alors qu'autrefois, thérapie, des choses comme ça, on n'avançait pas beaucoup. D'autant plus que cette gélification que repère Lacan dans les cas de phénomènes psychosomatiques, donc de la chaîne signifiante, peuvent s'observer dans la psychose. Vous connaissez toutes les néologies de la psychose. Dans la débilité mentale que Lacan définit non pas à partir d'une déficience cérébrale, mais à partir du fait que le sujet, c'est des sujets qui ne sont pas solidement installés dans un discours et qui flottent entre les discours. On a beaucoup de nos jeunes comme ça, dans les manifestations où on entend parler, qui sont comme ça. On peut les c'est sous des débiles mentaux. Ils n'ont pas encore trouvé un discours pour s'inscrire dans le sujet. Ensuite, donc, les phénomènes psychosomatiques, en réalité très énigmatiques, qui vont, selon des rythmes qui n'ont rien à voir avec la répétition signifiante, et plutôt probablement avec les pulsations de la vie. Alors, moi j'ai une petite thèse là-dessus, personnelle, c'est que, en particulier pour le psoriasis ou d'autres maladies comme ça, je pense que ce sont des manifestations que j'appellerais d'un trop de vie. Comme les cancers en particulier, prolifération de cellules, il y a trop de vie. Et que ce sont des manifestations, des événements du corps qui se produisent parce que l'homéostasie, je dirais, du corps, l'équilibre du corps est troublé par quelque chose qui est tout à fait automatique. Ce qui nous appelle à interroger la théorie freudienne des pulsions de vie ou de mort. Alors, vous savez que le terme de pulsion, Freud dira en 1930 que ce sont des êtres de mythe, grandioses dans leur indétermination. Par conséquent, ce terme de pulsion, qui est devenu un concept fondamental de la psychanalyse, il faut le réserver aux quatre grandes pulsions qui ont été articulées par Freud et complétées par Lacan : orale, anale, scopique et invocant. Et par conséquent, que Lacan va conduire d'ailleurs, après la nomination par Freud de pulsion mythique, il va en parler, il va faire passer la pulsion au niveau de dérive de la jouissance, parce qu'il va traduire tribe par le terme anglais drive comme étant une sorte de dérive, ça, comme un bateau qui descend un tour. Alors, quant à la vie, finalement, la vie, elle n'est pas pulsion, elle est pulsation vitale. Et contrairement à ce que dit Freud, la vie ne veut pas mourir. Quand une forme lui est refusée, elle en trouve une autre. La pulsion de mort aussi est mal nommée aussi bien, car il ne s'agit pas non plus de pulsion, ni d'agressivité instinctuelle, ni de violence. Il s'agit, parce que ça c'est autre chose, ce sont des manifestations du sujet, la violence et l'agressivité, mais il s'agit d'une mortification du corps parlant et jouissant par le signifiant. Alors, que faire avec ça pour la psychosomatique? Alors, j'ai amené là, à l'époque, quand j'ai effectivement... Quand j'ai publié ce texte qui était l'adieu que je faisais à la psychosomatique, parce que je trouvais qu'on n'avançait pas dans ce domaine, pour ça je me suis intéressé un peu plus à la science, pour essayer de retrouver un nouveau souffle. Au bout de 2 ans de silence total autour de moi, et en désespoir de cause, j'ai envoyé cette lettre au professeur Marcel Franciscan, qui est chef de service à Bichat. C'est un mandarin de la grande époque, et c'était un type qui avait une telle aura que ses élèves l'appelaient Dieu. Voilà, hein, un homme extrêmement sympathique, et nous avons lié amitié pour des raisons particulières que je n'ai pas évoquées ici. Je lui ai adressé cette lettre, et 6 mois plus tard, j'ai reçu de lui une réponse manuscrite, très bien écrite, belle écriture pour un médecin, qui a pris son temps, qui m'a lu à la lettre, et je vais vous dire un petit peu ce qu'il a répondu sur mon texte, et je vais vous faire raisonner mes propres avancées. Je vais pas faire ça, je vais essayer. Je ne peux pas répéter ce que j'ai écrit sur la psychosomatique, parce que sinon c'est pour moi une répétition trop. Bon, enfin voilà. Il commence d'abord à dire que. C'est important pour moi. Un homme qui est mon aîné depuis plus de 25 ans, il me remercie de cet envoi, y mesurant, il s'agit qu'un beau coup, une grande honnêteté intellectuelle et une ouverture d'esprit, écoute-t-il, rare dans le milieu médical, sur une problématique qui l'intéresse et qui l'interpelle, à savoir la psychosomatique. Il me dit. Il n'utilise jamais le terme de psychosomatique. Source de trop de malentendus et de confusion pour tout le monde, et qui brouille les pistes. Qui entraîne un défaut de connaissance, un défaut dans le diagnostic et un défaut dans l'entreprise thérapeutique. Face à ces phénomènes. Il se présente lui-même comme un tenant du tout organique. Mais il reconnaît les médecines parallèles. Il dit qu'il ne faut pas chercher une théorie unitaire. Et que pour lui, l'appareil psychique suit les modulations des manifestations corporelles. Il souligne dans mon texte le terme de bout de réel spécifique en parlant des interfaces physico-psychiques qui sont pour lui à plusieurs facettes. Il fustige notre époque d'une prétention au tout savoir qui est pour lui un rêve asymptomatique. Donc, ceux qui, comme lui, je parle de ceux qui sont comme lui, sont pour le coup biologiques, n'ont aucune réticence à reconnaître l'existence de l'inconscient, de son étude par les rêves, et de sa dialectique langagière. Lui, il appelle la boîte noire. Les conversions hystériques sont pour lui des événements du corps, et qui restent encore énigmatiques pour la neurologie, qui n'exclut pas un autre savoir que la neurologie, à savoir celui de l'analyse. Il m'assure de la spécificité parlante du corps humain qui n'a pas d'équivalent dans le monde animal. Ça n'exclut pas, Lacan l'avait souligné aussi, ça n'exclut pas une certaine manifestation d'un début de symbolisme chez l'animal. Et lui, il va parler jusqu'à la souffrance affective que certains animaux peuvent se trouver. Il en donne un exemple qui est relativement connu, de ce chien qui se laisse mourir parce que son maître a été déporté. Dans les maladies, dont on ne connaît pas la cause organique, et où l'on évoquerait à ce moment-là une causalité psychique totale, il dit, il affirme qu'il y a sûrement une induction subjective. Pour lui, les positions de l'école de psychosomatique de Paris, Marty, il considère que c'est parce que l'inconscient n'est pas assez épais, en gros, et que ça déclenche des phénomènes surmoïques qui entraînent des lésions du corps, il dit que c'est des théories qui lui semblent très farfelues. Par contre, et c'est aussi ma position, il ne les invalide pas dans leur capacité à s'occuper cliniquement des patients comme thérapeute. Ce qui illustre une autre phrase de Lacan, qui dit que la pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour être opérante. Il me souligne que l'algèbre lacanienne l'intéresse. Et là, il introduit une note personnelle, probablement à mon adresse. Il a soigné Lacan et ses filles. Il m'annonce que, au fond, sur le plan médical, me dit-il, le docteur Lacan était un conventionnel. Il approuve ce que j'ai dit, à savoir que la psychanalyse n'a pas à démontrer par quel circuit le signifiant interagit sur le corps propre. Vous savez, c'est les théories d'Alexander qui a monté des tas de cycles pour démontrer que les circuits fonctionnaient et entraînaient des maladies. Mais que cette thèse de l'induction du signifiant est pour lui indiscutable et que l'impact du désir corrélé au langage est pour lui pertinent à cet égard. Il évoque l'horizon de la douleur. Et il nous rappelle qu'il a introduit une technique pour traiter les myalgies par des douleurs réelles, reconnues comme telles, sur le simple témoignage de patients qui parlent, et sans preuve aucune du point de vue organique. Il est d'accord avec les médecines parallèles, mais il lutte contre elles quand elles diffusent des incohérences idéologiques. Et évidemment, il est très prudent sur les sujets. Enfin, il me dit que le terme d'allopathie est une invention des homéopathes et qu'il n'a strictement aucune cohérence étymologique. Il conclut par un clin d'œil. il a oublié la lettre qu'il m'avait écrite sur son bureau pendant 6 mois. Et il me demande si ce n'était pas par hasard un acte manqué.
Patrick, oui. J'ai beaucoup de choses à parler avec toi.
Oui.
On y va. D'abord, je voudrais qu'on t'applaudisse. Parce que. Bon, c'est Patrick.
D'abord. La suite viendra après un certain nombre d'entretiens préliminaires. Mais il n'y a pas lieu de ne pas faire appel éventuellement à d'autres disciplines, notamment à la médecine ou d'autres formes de prise en charge de tels patients. Alors, je vais prendre la parole et puis on y fera la suite.
D'accord. D'abord, je voudrais dire à vous que effectivement je connais Patrick Palas depuis très longtemps et que si j'ai l'invité à parler sur comment agir avec un patient psychosomatique, c'est parce que Patrick Palas avait écrit un ouvrage et puis des articles qui ont été et qui sont encore aujourd'hui très intéressant et très important pour le travail que nous avons avec certains patients qui présentent des phénomènes psychosomatiques. D'ailleurs, Lacan eut proposé, et Patrick Palas a été un de ceux qui a bien soutenu cette thèse, c'est que la psychosomatique n'est pas une entité nosologique, mais que ce sont des phénomènes. Premier point. Et ça, je vois Patrick par scrupule ou par je ne sais quel phénomène psychologique, tu n'as pas voulu nous dire tout ce que tu travailles sur ça depuis très longtemps. Je comprends que ça fait partie d'une certaine époque, mais j'aurais bien aimé que, par exemple, on rappelle, je ne fais que te répéter, quand tu disais la psychosomatique, c'est avant tout des phénomènes. Dans le mot phénomène, on a une signification qui est la signification que le phénomène apparaît comme détaché, comme isolé, comme un îlot dans un être humain, comme si c'était déconnecté de tout le reste. Phénomène veut dire isolé du reste du sujet.
Donc, ce n'est pas un symptôme.
Voilà.
Et il n'y a pas de sujet psychosomatique. Ce n'est pas une structure.
Voilà, mais voilà.
Là, tu me relances.
Voilà. Donc, premier point, c'est il n'y a pas, ce n'est pas un symptôme. Pourquoi ? Parce qu'un symptôme, le propre d'un symptôme, c'est qu'il est relié à d'autres symptômes. Un symptôme, j'ai une phobie. Mettons, j'ai une phobie au rat. Eh bien, cette phobie au rat est reliée à d'autres. Peut-être d'abord, tout symptôme va être relié d'abord au même type de symptôme qui est apparu avant, enfant, adolescent. Deuxièmement, c'est un symptôme qui va être relié à d'autres éléments de ma vie, par exemple la relation que je peux avoir avec mon père. Et troisièmement, ces symptômes-là ont une signification, bien sûr à l'égard de mon père, mais aussi à l'égard d'autres vécus que je peux avoir, et les psychanalystes vont penser particulièrement à la phase édipienne. Bien. Voilà un symptôme. Un phénomène psychosomatique ne se relie à rien. Et c'est pour ça que Palas a toujours insisté, Lacan aussi, à dire il n'y a pas de symptômes psychosomatiques, il n'y a que de phénomènes. Et je dirais plus, pour reprendre l'expression de Palas, des phénomènes acéphales, sans tête. Il n'y a pas de sujet psychosomatique. Premier point très important. Dans le nom de phénomène, aussi, il y a une connotation intéressante, c'est qu'il y a une part d'obscurité, de mystère, des caractères impénétrables de cela. Ça veut dire quoi ? Voilà, l'a dit à sa façon, Lacan aussi, c'est-à-dire Le mystère, c'est que ce phénomène psychosomatique ne peut pas être formalisé d'une manière lisible. Je ne peux pas. Si je prends un symptôme phobique, je peux dire voilà, le symptôme phobique comporte une angoisse, il est relié, hypothèse freudienne par exemple, Freud dit se relier à l'amour pour le père, ou au désir du père pour le sujet. Ça, c'est Freud. Quatrième chapitre, inhibition de symptômes et angoisse, théorie de la phobie. Moi, personnellement, je respecte ce que dit Freud, je dis autre chose. Je dis que la phobie, c'est l'effet qui s'est produit à partir d'une expérience d'abandon. Je verrai si l'année prochaine, j'aborde la question de comment agir avec un patient phobique. On verra. Mais pour un patient psychosomatique qui souffre des phénomènes psychosomatiques, vous ne pouvez pas traduire une lecture du même ordre. Et Lacan de dire, il y a un phénomène d'irruption, d'interruption, des blocages au niveau du langage.
Il va très loin, Lacan, parce qu'à la fin de son enseignement, il va dire que c'est la signature de Dieu, signatura verum.
Pour dire même que c'est
particulièrement énigmatique. Hein,
tout à fait. Hein. Deuxième commentaire que je vous fais. Venons maintenant à l'appréciation générale de la psychosomatique. Il y a deux approches. Première approche, très générale, qui est la suivante. Qu'est-ce que c'est que la psychosomatique? Je laisse de là, de côté, la psychanalyse. Vous allez voir où est l'ombre. Quelle est la définition de la psychosomatique? La psychosomatique, c'est la partie, le domaine de la psychologie, de la psychopathologie, qui s'occupe d'établir le lien qu'il y a entre les facteurs psychologiques et une affection médicale déterminés. Ces facteurs psychologiques peuvent être de deux ordres. La relation entre facteurs psychologiques et maladie médicale peut être de deux ordres. Ou bien les facteurs psychologiques ont une relation, je dirais, des coexistences avec la maladie, ou bien une relation des causalités avec la maladie. Exemple, une relation des coexistences. Tu me permets, ça c'est un rappel de la théorie des Marty, etc. La relation des facteurs psychologiques avec la maladie, c'est une relation de coexistence. Par exemple, les facteurs psychologiques peuvent apparaître au moment de l'apparition d'une maladie, au moment même de l'apparition d'une maladie. Par exemple, il peut y avoir un phénomène dépressif, un facteur psychologique dépressif, un trouble dépressif, au moment même où le sujet vient de déclarer un infarctus. Il pleure, il est triste, c'est un homme de 50 ans, il ne s'attendait pas, on vient de lui diagnostiquer un infarctus, et il pleure, il se déprime. Facteur psychologique qui accompagne la maladie médicale. Ça, c'est les facteurs psychologiques apparaissent en coexistence au moment de l'apparition, au moment du développement de la maladie, ou même au moment de l'aggravation de la maladie. Il peut y avoir des phénomènes qui aggravent. Par exemple, un patient asthmatique qui va avoir une crise d'anxiété, l'anxiété va aggraver la maladie asthmatique. Et puis, et c'est ça qui nous concerne, et là je te donne la parole tout de suite, la deuxième relation, c'est une relation des causalités. Et c'est ça qui est la plus difficile. C'est pas tellement de dire, oui voilà, il y a un facteur psychologique au moment même qu'il y a une maladie médicale. Le problème c'est, il y a des facteurs psychologiques qui causent ou participent dans la causation de la maladie médicale. Donc il y a deux types de relations, des coexistences ou des causations. Et le problème qui se pose, c'est dans quelles conditions et à partir de quels éléments pouvons-nous dire que tel conflit psychologique, et là nous traduisons pour nous psychanalystes, puisque à nous psychanalystes, ce qui nous intéresse, c'est surtout la deuxième type de relation, c'est quel est le comment un facteur psychologique, un conflit ancien, par exemple, a pu déterminer un trouble médical, un trouble organique, une ulcère, puisque tu as parlé des ulcères, malgré qu'effectivement on sait maintenant que les ulcères sont produites par des bactéries, quand même on sait aussi pourquoi l'ulcère s'est produit chez telle personne et pas chez telle autre. Ou encore, un autre exemple plus évident, c'est le cas de la pelade. Par exemple, un choc émotionnel est à l'origine d'un trouble grave, parce que c'est un trouble de chute soudaine et immédiate des cheveux, parfois de façon partielle, parfois de façon universelle. C'est ce qu'on appelle la pelade universelle, ça veut dire que toute la chevelure chute. Et ça, on le constate dans nos cabinets, de voir des patients qui ont une pelade et que cela s'est produit à cause d'un choc émotionnel parfaitement décelable. Donc, vous avez deux types de relations psychosomatiques. Point à la ligne. Ça, c'est un rappel global. Maintenant, et c'est là que je voudrais entendre Patrick, gardons le deuxième point. C'est-à-dire, quelle est la causation d'une maladie médicale? Comment il est causé par un facteur psychologique? Et c'est là qu'il vient l'hypothèse de Lacan, de l'holophrase, de la prise en masse des signifiants. Hein? Alors, comment tu vois ça?
Oui, bon, je vais essayer de... Moi, vous savez, justement, mon projet, c'était de dénoncer même le terme de psychosomatique, parce que le parallélisme psychophysique, si vous voulez, tout le monde le sait depuis très longtemps, c'est une foutaise. La coupure, si vous voulez, elle n'est pas à faire entre le physique, ce qu'on appelle le soma, et le psychique. La coupure, elle est à faire dans... C'est une affaire de réel. Le réel, c'est pas la réalité. Hein. Et c'est donc une coupure qui est à faire dans le psychique, entre ce qui est du réel du psychique, en particulier la douleur ou sa phase de jouissance, et le logique, c'est-à-dire le discours dans lequel le sujet est pris. Voilà, ça c'est une façon de dire les choses. Alors, quelqu'un qui vient vous voir justement pour ces phénomènes, eh bien, écoutez-le d'abord et ne centrez pas votre écoute sur son phénomène comme le font les gens de l'école de Paris, justement. Il faut le faire parler comme un sujet. C'est un sujet qui se plaint. Il souffre de son corps, de son esprit. Il ne sait pas très bien ce que c'est. Il parle de ça. Vous savez, il suffit d'avoir un petit événement du corps pour être très très mal. Hein. Vous avez une poussière dans l'œil et ça va mal, hein. Ça va très mal. Par conséquent, quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde, et Dieu sait si on ne sait pas ce que c'est, puisque on a beau avoir fait des examens régulièrement, ça tombe comme ça. Eh bien, quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde, il peut se déprimer, hein, parce que quand même, d'abord, c'est extrêmement douloureux, et qu'il sait très bien que l'avenir, en général, n'est pas rose pour lui. Hein. Alors, c'est ce que je voulais dire comme ça, déjà. J'avais souligné que, comme le rappelle Marcel Franciscan, que les modulations organiques sont suivies de mêmes modulations psychiques. Donc, il reconnaît toutes ces choses-là. C'est important, je vous donne les arguments d'un organiciste pour essayer d'asseoir la validité de notre approche de cette affaire-là par le biais de la psychanalyse. C'est-à-dire que ce sont des sujets à qui il faut parler et à qui on a besoin de les entendre parler, élaborer eux-mêmes quelle est leur théorie spécifique expliquant pourquoi ils sont comme ça. Même si c'est une élucubration, ça tient la route. Il faut passer par là et non pas faire la chose inverse comme se fait l'école de Paris qui s'appelle l'investigation psychosomatique où il découvre quoi? Il découvre un sujet qui est muet parce que c'est pas le sujet psychosomatique comme il n'existe pas donc il n'a aucune raison de parler et on finit par en faire un demeuré qui est victime d'une pensée opératoire. Alors que nous avons fait des présentations de cas dits de psychosomatiques à l'hôpital, et les patients qu'on a laissés parler, élaborer leur propre théorie, parler tout à fait bien et expliquer les choses. Et ils racontent ça dans leur histoire, et ils trouvent des répétitions, ils trouvent des dates. Tout ça, c'est très important. Seulement, on ne peut pas affirmer que ça tient la route, je veux dire, du point de vue de la causalité. C'est ça la chose. Et curieusement, alors ça, je n'ai pas pu en parler aujourd'hui, mais tant pis, c'est comme ça, c'est que le transfert, qu'est-ce que c'est que le transfert, hein? Le transfert, c'est quand même, quand quelqu'un vient vous voir, pris dans sa jouissance spécifique, c'est-à-dire sa douleur à lui toute seule, sa douleur, je dirais, autiste, qui traîne ça depuis des années, tous ces types de maladies, psoriasis, vitiligo, et autres ulcères, et autres pelades, et toutes ces choses-là. Quand vous lui faites l'offre de votre désir de l'écouter, eh bien vous l'inscrivez par le biais du transfert dans un discours. Autrement dit, vous l'arrachez à cette jouissance spécifique et autiste, et vous l'articulez en termes de discours. Et donc, ça la tamponne. Qu'est-ce que ça produit? C'est-à-dire que ce réel qui brûle, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce réel qui brûle, qui fait souffrir, eh bien, par le biais d'une pratique transférentielle, vous obtenez une sorte d'apprivoisement de ce réel. Parce que petit à petit, ça lui devient plus familier, et peut-être que par ce biais-là, il va faire un travail beaucoup plus approfondi que son histoire, et donc entreprendre une analyse. Et au cours d'une analyse, où il va se mettre à parler comme tout sujet, sans chercher à comprendre, sans juger, sans calculer, sans préparer ses séances, sans vous l'orienter par des questions, sans suggestion, eh ben, il va retrouver dans le parler ce qu'il lui faut de jouissance pour que son histoire continue. Et vous vous apercevrez, au bout d'un certain temps de travail avec lui, que son psoriasis et, toutes ces choses-là, il n'en parle plus. Ça disparaît et vous découvrez que ça évolue par périodes comme ça, qui sont des pulsations biologiques dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Évidemment, ça amène des phénomènes de soulagement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein.
Je voudrais, je me permets bien qu'on nous pose des questions, que vous interveniez. Avant tout, une précision. Je disais tout à l'heure, et suivant le fil de ce qu'avance Patrick Balas, sur la question de la causation. C'est-à-dire, nous sommes dans le domaine des hypothèses. Alors, quelle est l'hypothèse psychanalytique qui expliquerait qu'un facteur émotionnel, qu'un conflit émotionnel, détermine un phénomène psychosomatique, c'est-à-dire une altération des tissus. La différence entre une somatisation hystérique et une somatisation psychosomatique, c'était fait par M. Alexander, qui est un disciple de Freud, un Viennois, qui a émigré aux États-Unis et qui est devenu, je dirais, le grand théoricien de la psychosomatique. Alexander disait qu'il fallait bien distinguer la maladie du corps due à une hystérie chez un névrosé de la maladie du corps d'un patient psychosomatique. Et il distinguait cela en parlant d'une altération tissulaire. Dans la psychosomatique, les tissus sont altérés, sont blessés. Dans la cas de l'hystérie, c'est un dysfonctionnement. Il n'y a pas d'altération tissulaire. C'est une distinction théorique, clinique aussi, mais c'est pour orienter l'écoute du thérapeute qui doit faire ce que disait Balas, et j'y viendrai. Mais d'abord, j'aimerais bien venir à la question que je posais tout à l'heure. En quoi un conflit émotionnel est-il susceptible d'avoir une répercussion tissulaire, des lésions tissulaires? À une époque, dans un séminaire, j'appelais ça lésion d'organes, parce que je considérais qu'il y avait une lésion. Donc, en quoi accompagne les conflits émotionnels, peut-il provoquer une lésion d'organes? Voilà la réponse théorique. C'est une hypothèse très abstraite et que certains parmi vous m'ont écouté développer lors d'un séminaire que je fais récemment sur la forclusion locale. Et j'expliquais que c'est une forclusion locale, c'est-à-dire une non-perception de la réalité douloureuse qui s'offre au sujet, va à déterminer une répercussion au niveau du corps. C'est-à-dire, il m'arrive un événement. Je vais prendre l'exemple d'un patient qui souffre d'une pelade universelle. Ce monsieur, il avait 13 ans, c'était un garçon, il était très attaché à un voisin, un jeune homme de 25 ans, son voisin, qui vivait seul. Le garçon, mon patient, vivait avec sa famille. Un jour, que ce garçon, mon patient, qui est très attaché, les parents nous disent, du jour au lendemain, pour des raisons diverses, nous quittons cet immeuble, nous partons ailleurs, très loin de Paris. Ce jour-là, l'enfant est désespéré, pleure, quitte la maison avec ses parents de manière très accélérée, comme à l'improviste, sans y penser. C'est un départ inattendu et la nuit même de ce départ, l'enfant commence à perdre les cheveux. Et cette chute des cheveux va se compléter encore le lendemain et il va devenir complètement chauve. Et cette pelade qu'on appelle universelle en dermatologie va durer jusqu'à aujourd'hui que je le vois comme patient en face à face. Cet homme a aujourd'hui une quarantaine d'années et il porte une perruque. Et je suis avec lui. Je constate qu'il y a eu une autre expérience émotionnelle du même type, c'est-à-dire une expérience émotionnelle où plus tard il a été aussi, je ne vais pas trop m'étarder à la question de l'homosexualité, mais il est homosexuel, il a été amoureux d'un autre homme, aussi voisin, et il s'est passé le même phénomène. Je dirais que le garçon, prenons les cas qui m'intéressent, c'est-à-dire le premier épisode qui a déterminé la pelade, eh bien, à ce moment-là, il y a eu une forclusion. C'est-à-dire que l'enfant a été, certainement, il n'a pas réussi à percevoir, à reconnaître la douleur que signifiait pour lui ce départ soudain, cet arrachement d'une relation amoureuse qu'il avait avec ses voisins. Il était comme dans un état second, il n'a pas vécu cette expérience, et ça, ce que j'appelle forclusion, va répercuter le lendemain au niveau du corps. C'est-à-dire que l'hypothèse de l'holophrase, ce que Lacan appelle la prise en masse des signifiants, je dirais que ça correspond à la figure de la forclusion, une forclusion que j'appelle locale. Je m'excuse d'ajouter mes propres observations, mais c'est pour dire que nous sommes là concernant la forclusion locale, c'est-à-dire un défaut de perception, une scotomisation, comme on l'a dit la forgue. Cette scotomisation va à se traduire par une lésion au niveau corporel. Voilà comment on peut expliquer, c'est une explication abstraite, théorique, du fonctionnement ou de l'apparition d'une lésion dite psychosomatique, ou d'un phénomène psychosomatique. Enfin, je voulais vous donner cette approche. Tu veux me dire quelque chose avant, et puis je verrai bien que vous nous posiez des questions. Peut-être des questions. Est-ce qu'on peut appeler une hôtesse, s'il vous plaît? Comme ça, elle nous donne un micro. Hein? Qui veut poser la question là?
Avant que le micro passe, je conteste ta théorie de la lésion, parce que dans la médecine, autrefois, la lésion anatomopathologique reconnue permettait de dire qu'un tissu est lésé ou pas. Avec la biologie moderne, cette notion, cette frontière s'est effacée. C'est pour ça que je vous ai lu une partie, enfin, je vous ai donné des arguments de Marcel Franciscan, puisqu'il dit maintenant que pour eux, même les conversions hystériques, il y a des lésions du corps qui sont très énigmatiques et sur lesquelles ils s'interrogent. Ils n'ont pas les moyens d'investir ça, mais ils le reconnaissent comme tel. Certaines aussi, une lésion, on ne sait pas où elle passe. Voilà, c'est une frontière comme ça. Voilà.
Monsieur.
Oui, bonsoir. Tout à l'heure, on a fait de la vulgarisation de physique nucléaire, mais j'aimerais savoir votre avis concernant l'effet placebo.
Alors justement, oui, j'en ai parlé, mais je n'ai pas pu le faire, c'est sûr. Alors, j'ai parlé du transfert. Alors, pour moi, ce qu'on appelle le placebo, c'est certainement à rapporter au transfert. Ça ne veut pas dire que c'est identique au transfert, mais les phénomènes de... Puisque le corps, alors ça je n'ai pas pu le développer non plus, le corps c'est pas simplement la matière, le corps c'est une triplice du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aborder le corps par le réel, on peut l'aborder par le biais du langage, l'induction signifiante, ou on peut l'aborder par le biais de l'image, puisque c'est avec des images qu'on peut produire aussi les effets du corps. Eh bien, dans la médecine, justement, quand un sujet vient, on sait très bien que, très malade, il suffit qu'il voit le médecin pour que ça aille beaucoup mieux tout de suite. C'est ça l'effet placebo. Et c'est un effet lié non pas à la magie des choses, ni même à l'ignorance des choses, c'est lié au phénomène transférentiel. Simplement, les médecins, le transfert, ils ne travaillent pas avec le transfert. Ça existe dans la relation médecin-malade, ça fonctionne, ça surprend toujours tout le monde, comme ça, mais c'est un effet transférentiel, c'est tout. D'aller voir un sujet supposé savoir, à savoir le médecin, quand on est malade, on va mieux, on est soulagé de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une manifestation subjective qui s'est améliorée, qui a soulagé le sujet de la mesure où il s'est adressé à quelqu'un qui va peut-être pouvoir faire quelque chose pour lui. Voilà ce que c'est pour moi l'effet placebo en grande partie. C'est pour ça qu'on donne tel produit à un malade et un autre un placebo, ils ont apparemment la même maladie, et curieusement, celui qui a le placebo est aussi bien soigné que celui qui a le médicament. Donc, on voit bien que c'est lié à quelque chose que méconnaissent en général les médecins, le placebo, ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est un effet du transfert, simplement. Et Lacan le pointe en disant que la médecine, elle agit avec des mots. C'est pour ça que le médecin, il fait des ordonnances, il donne des ordres, hein. Il faut donc suivre ces ordres. Ils donnent des noms de médicaments qui n'ont pas été inventés n'importe comment. C'est pour ça qu'actuellement, avec l'histoire des génériques, on veut donner des génériques pour faire des économies budgétaires. Ça, c'est un problème que je ne débat pas. Mais on ne change pas comme ça le nom des médicaments. Les gens qui sont habitués à certains noms, ça fonctionne rien que parce qu'ils ont le nom. Le Valium, par exemple, ça quand même, ça se rapproche un peu de l'opium, le Valium. Hein. Quand on vous donne du Valium, ça calme un certain nombre de gens qui veulent du Valium. Ils ne veulent pas les génériques qui s'appellent le Profond. Voilà des effets de langage sur la maladie, en général et en particulier. Alors, un autre point, avant de terminer ça, il ne faut pas oublier qu'en psychanalyse, on fait des diagnostics de maladies graves. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui, du fait de leur structure subjective, ne veulent rien savoir de ce qui leur arrive au niveau du corps. Et que dans leur discours, on arrive à repérer des choses qui peuvent nous amener effectivement à les conduire à se faire soigner, éventuellement. Hein. Soit parce que c'est des phobies qui ne veulent pas qu'on les touche, des cancers du sein pour des femmes. Il y a des femmes qui se laissent mourir parce qu'elles ne veulent pas qu'on touche à l'image du corps. C'est une question d'image pour elles. Donc elles préfèrent se laisser mourir plutôt que de se faire éventuellement enlever un sein. Et on a toute une série de choses qu'on oublie avec la psychanalyse. On soigne et on détecte des maladies très graves chez des gens qui sont passés complètement inaperçus dans les examens répétés, les choses comme ça. Je le soulignais là pour montrer comment la frontière entre la maladie organique et la maladie dite psychosomatique n'est pas si facile à prendre. Par contre, moi je me lève farouchement contre l'idée de dire qu'un cancer a été déclenché par des manifestations subjectives. Peut-être, mais il vaut mieux quand même que le sujet il aille se faire soigner par les médecins d'abord. On verra après, parce qu'il y a des médecins. Il y a des gens qui disent, vous n'allez pas voir le médecin, on va vous soigner psychiquement. Non ?
Oui. Sans votre respect, monsieur l'orateur, les médecins savent depuis très très longtemps que, depuis Aristote en fait, que le meilleur médicament, c'est le médecin. Et par conséquent, ils le savent et ils en tiennent compte dans leur approche du malade. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est nouveau.
C'est quoi la question ?
Michel Zucker, qu'est-ce que vous pour mademoiselle, attendez, donnez-lui, si vous voulez bien, je veux vous poser une question. Mais bien sûr, le rapport au médecin que nous appelons le transfert, c'est l'élément. Nous disons en psychanalyse que le transfert, c'est l'agent thérapeutique numéro un. Si nous réussissons à qu'un patient se sente mieux ou que ses symptômes s'améliorent, c'est indiscutablement grâce à la relation que nous avons avec lui et que lui a avec nous. À l'intérieur de cette phrase, il y aurait 1000 secrets et 1000 précisions à faire, et on se garde encore toujours sur notre faim pour essayer à bien la déceler. En quoi consiste cette relation au médecin entre le médecin et le thérapeute qui permet que le patient aille mieux? Alors, ça c'est le transfert. Et j'ajouterai même, la question du nom est très importante aussi, je suis d'accord. Il n'y a pas seulement un transfert à la personne du médecin, à son savoir supposé, à son nom, le nom du médecin, Wallace, Zucker, Nasio, Lacan, etc., ça compte, le nom du médecin, le nom propre, le transfert au nom propre, et puis le transfert aussi au lieu, au cabinet, même le transfert au quartier, à la boulangerie du coin, à tout ce qui fait lier à cette relation thérapeutique entre patient et malade. Je veux dire qu'il y a un investissement affectif du sujet pour tout ce qui concerne le monde du patient. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pour venir à la psychosomatique, vous qui êtes médecin, qui connaît bien aussi le cancer, puisque vous avez eu affaire à des enfants souffrant de cancer, et qui est dramatique quand on pense, à des guérisons, puisque je connais des patients qui se sont guéris grâce à vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette relation, soit qu'elle obtient une amélioration du cancer, ou soit au contraire qu'elle rate, et que, bref, qu'est-ce que vous pourriez dire sur votre expérience d'oncologue et de connaisseur de la psychologie, de la psychanalyse aussi?
Oui, enfin, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'effectivement, comme l'a dit M. Wallace, on ne peut pas démontrer, toutes les tentatives ont été infructueuses à le faire, qu'il y ait une psychogénicité du cancer, et que dans certains cas, un cancer soit causé par un trouble psychologique, psychoaffectif, il vaut mieux aller voir un cancérologue qu'un analyste dans la minute où on vient de diagnostiquer un cancer. Ceci étant, il est vrai que nous constatons tous les jours, nos cancérologues, que le début apparent de la maladie, c'est-à-dire l'émergence en tant que symptôme d'un cancer qui peut très bien évoluer depuis des mois, voire des années chez un patient adulte, chez l'enfant c'est en général assez rapide, l'émergence des symptômes suit quelquefois de très près un choc émotionnel ou un événement de vie important qui va précipiter l'apparition de ces symptômes. De là à conclure que ce choc émotionnel a causé le cancer, non, bien entendu. Mais enfin, il y a cette causalité de venue à jour, de mise à jour des symptômes. Maintenant, pour ce qui est du transfert pendant la relation thérapeutique, tout au long du traitement, c'est clair que ça n'est pas parce qu'un patient est plus confiant, dans de meilleures conditions psychologiques, qu'il y aura automatiquement une guérison ou une amélioration de la survie de ce patient par rapport à d'autres patients qui seraient dans des conditions plus difficiles. Donc là aussi, on ne peut pas être mécanique. Il n'en reste pas moins que le confort de vie, la qualité de vie à durée égale d'existence est considérablement améliorée dans le cas où, durant cette relation thérapeutique, le transfert se passe bien. C'est clair. Il y a eu une étude qui avait été faite à l'Institut Gustave Roussy, on avait comparé des deux groupes de femmes atteintes de cancer du sein, où la première avait été traitée ayant les mêmes caractéristiques cliniques, bien entendu, avait été traitée selon un mode habituel, sans surcroît de soins relationnels, et un autre groupe de femmes qui avait été traitée avec des soins qualitatifs, l'intervention plus fréquente de psychologues, etc. Eh bien, il y a eu en fait apparemment une prolongation de la durée de vie dans le groupe qui avait été traité avec ces soins qualitatifs plus accentués. Bon. C'est une étude. D'autres études n'ont pas montré de différence, mais on a toujours retrouvé un meilleur confort de vie, de sorte qu'on en reste devant ce mystère qui a été évoqué tout à l'heure et qui n'a en tout cas pas de causalité définitive et qu'on ne peut pas trancher sur cette causalité psychique de maladie de ce type.
Merci. D'autres interventions, d'autres questions?
Salut, bonsoir. J'ai été interne chez Marcel Franciscan en 1987, donc les souvenirs sont assez lointains. Mais je peux dire que la deuxième personne incontournable dans le service après lui, c'était la psychologue. Et qu'il n'y avait pas de présentation de cas sans présentation du patient, de son itinéraire de vie, de sa personnalité et des troubles associés qui pouvaient. Et donc toute l'histoire du patient et de sa maladie était construite dans sa globalité, même si évidemment on ne pouvait pas toujours faire des liens de causalité. Tous les éléments étaient rapportés, il n'y avait pas de cas complet sans qu'on ait parlé des deux côtés, des deux facettes du patient et de sa souffrance. Oui, bon. Oui.
Ça confirme sa lettre, qui tient tout à fait l'hypothèse de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il la reconnaît par conséquent, et c'est quelqu'un avec qui on peut dialoguer sans excuse. Il apporte des arguments du point de vue de la biologie qui conforte la découverte freudienne, ce qui n'est pas le cas actuellement avec la plupart des nouveaux des neurosciences et des neurosciences. C'est ça que je voulais dire. Alors, vous voulez juste un point.
Juste un point, justement, parce que je suis, moi, sur un autre versant. C'est autour du sida. Vous comprenez, moi, ça fait 50 ans que je connais Jacques Lebovitch. Ça fait 30 ans qu'il se bagarre avec l'histoire du sida. Et on a eu affaire, à un moment donné, à cette thèse avancée par beaucoup de psy, entre parenthèses, que quand le sujet était déprimé, il faisait une dépression immunitaire et que donc ça aggravait la maladie. Eh bien, ça, c'est faux. C'est faux parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre la petite baisse des défenses immunitaires chez quelqu'un qui est déprimé ou malheureux et ce qu'était la dépression immunitaire dans le cas de sida. C'est un rapport de 1 pour 1000. Et voilà, c'était des thèses comme ça. Moi, je me suis bagarré contre des thèses du style, effectivement, cancer lié à des troubles psychologiques. Alors, si on parle de l'émotion, comment définissez-vous l'émotion ? Pour moi, l'émotion, c'est pas du tout une manifestation subjective. C'est un phénomène du corps, justement, l'émotion. Hein ? Ça veut dire que l'émotion, c'est qu'il y a une émergence de jouissance, de quelque chose de cet ordre-là, qui fait que le sujet perd ses moyens. Si vous lisez, si vous allez voir quelle est l'étymologie de l'émotion, vous verrez que ça veut dire ça. Et effectivement, quand le corps vous lâche, eh bien, ça va très mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Et quand vous avez un gros problème dans l'existence et que le corps ne tient pas le coup, eh bien, ça peut aller très mal et ça peut déclencher des séries comme ça. Je pense au chat d'Iran, qui, quand il a été destitué de son trône, on a dit que c'était une maladie psychosomatique, le cancer qu'il faisait. C'est une hypothèse qu'on peut envisager, mais on ne peut pas la démontrer. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'il est mort d'un cancer après avoir été destitué de son trône et avoir été viré de son pays, mais bon, c'est tout, c'est une hypothèse. Hein. Vous connaissez le cas de Claudia Cardinal, qui a écrit un livre fameux, qui a été un best-seller pendant des années, et qui a raconté son histoire de cancer et qu'elle avait guéri grâce à la psychosomatique. Ben non, elle est morte d'un cancer. Voilà. Marie Cardinal.
Oui.
Voilà, les mots pour le dire, voilà ce qu'elle a dit.
Oui, bonsoir, je voulais juste faire une petite correction par rapport au fait qu'il n'y ait pas de rapport entre un génotype et un phénotype. C'est une petite correction quand même à faire, parce qu'en fait, il y a une vraie relation. Par contre, au niveau du gène, c'est vrai, au niveau de l'ADN, tout ne s'exprime pas et que l'environnement peut effectivement faire apparaître des modifications au niveau du gène. Mais il y a une relation effective entre génotype et phénotype.
Et moi, je vous avance les thèses de Kupiec et de Sonigo, qui l'écrivent noir sur blanc. Ce sont des gens qui ont décrypté le génome du virus du sida, qui sont allés très loin, c'est allé jusqu'au transcriptome et toute une série de choses, et ils décrivent noir sur blanc qu'il n'y a pas de lien entre le génotype et le phénotype, et ils vont tellement loin qu'ils considèrent que les gènes n'existent pas et que ce sont des artefacts d'appareils qui les font apparaître. Moi, je le dis comme ça. Je vous donne le nom de ces auteurs.
Il existe juste des parties variables. Il existe juste des parties variables sur l'ADN qui peuvent s'exprimer ou non, et ce qu'on appelait autrefois des parties non codantes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des parties non codantes. Je suis biologiste.
J'ai une question pour M. Lesio. Il est où ? Vous pouvez
Là-haut. Ah oui, d'accord.
Mais j'ai une question pour vous quand vous expliquez, enfin quand vous donnez cet exemple de la plage de son patient, on va dire que c'est une douleur qui est non nommée, qui se diffuserait brute dans le corps sans passer par le filtre des mots. Est-ce que vous donneriez l'équivalent pour une thrombosis ou une maladie dermatologique quand on sait?
Non, je voulais donner cet exemple. Je ne suis pas ce soir le conférencier, donc je ne veux pas revenir sur ce que j'ai exposé récemment sur la fauclusion locale. Simplement, je voulais donner un exemple de ce que c'était que la fauclusion locale due à un moment des confrontations à une réalité douloureuse qui conduit le sujet à ne pas percevoir cette réalité douloureuse, c'est-à-dire à provoquer une sorte d'escotomisation, et que l'absence de perception, c'est-à-dire, il parlait du corps tout à l'heure, Balas, le corps, c'est pas simplement notre chair et notre os, le corps, c'est le corps que nous avons dans la tête. C'est-à-dire, il n'y a de corps que représenté mentalement, que ce soit consciemment ou inconsciemment. L'hypothèse que je voulais donner, c'est-à-dire que dans la forclusion, la représentation du corps ne se forme pas. Il y a une impossibilité pour le sujet de se représenter l'événement douloureux, que ce soit de son propre corps, que ce soit son émotion, ou que ce soit ce qui est en train de se produire, la séparation de cet homme qu'il aimait tant et dont il dépendait. Eh bien, là, je vous parle. J'ai une représentation de vous. Je ne peux pas parler si je n'ai pas une représentation de vous. Et en même temps, d'une représentation de ce que je vais dire. Et en même temps, même d'une image qui figure plastiquement, visuellement, par exemple mon patient, auquel j'y pense à cet instant. Eh bien, le patient, ce jeune homme des 13 ans, des 12 ans, qui voit son être, son élu, partir ou être arraché soudainement, brutalement à cette relation, cet enfant de 13 ans ne perçoit rien, ne représente rien. La tête est vide. Dans la tête, il y a un trou. Ces trous, cette scotomisation, c'est une ombre, c'est une tache noire. Cette tache, cet aveuglement, cette agnosie, c'est-à-dire qu'il ne sent pas, il s'émeut, mais il ne vit pas l'émotion, ne reconnaît pas l'émotion. C'est un état comme d'anesthésie instantanée qui dure un instant. Cela, c'est pour moi la forclusion locale. C'est une défense. Il y a d'autres gens qui se défendent que devant un état, une réalité douloureuse, je tombe évanoui, je m'évanouis. C'est aussi une défense massive. Il y a une autre défense massive, c'est la forclusion. C'est la plus forte. La première défense, c'est de s'en aller. La deuxième défense, c'est de tomber dans les pommes, comme on dit, évanoui. La troisième défense, c'est la forclusion. C'est-à-dire que je suis là, je reste, je suis vivant, j'entends, mais je ne me représente pas, je n'enregistre pas l'événement. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que nous faisons en permanence, c'est une représentation de ce que je perçois et qui compte pour moi. Je ne perçois pas, je vois que le monsieur s'en va, mais je ne ressens pas, je n'ai pas la représentation de vivre la douleur de la séparation. Je ne m'aperçois pas que je ne le verrai plus jamais. C'est un état d'anesthésie. C'est une asymbolie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole qui s'est produit dans l'esprit. Jusqu'à là, c'est clair. L'hypothèse, et comme disaient Zucker et Balas, ça reste tout à fait de l'ordre du mystère, mais c'est une hypothèse. Avançons, c'est le réel. Tu as commencé en disant que j'avais annoncé que le réel n'était pas la réalité. Absolument. Le réel, c'est ce qui est inconnu. Eh bien, je me permets, nous nous sommes permis, et il y aura des gens qui vont se permettre en permanence à essayer de comprendre ce qui est le réel. Eh bien, voici une interprétation. Cette absence de représentation, ce non-enregistrement mental d'un événement douloureux provoque une répercussion dans les corps, au niveau des tissus. Et je dirais que le phénomène psychosomatique, c'est l'expression dans le corps d'une panne dans l'enregistrement du symbole. Lacan l'aurait dit autrement, c'est une réinterprétation, Patrick. C'est une réinterprétation de l'holophrase. Je le réinterprète comme ça.
À partir du moment où le signifiant se gélifie, la chaîne se gélifie,
voilà,
il perd son statut de signifiant. Donc voilà. il va dans le réel, c'est du réel. Hein.
C'est ça. Le mot gélifié vient de Winnicott. Oui. Et Lacan le reprend de Winnicott, il l'utilise, tu connais très bien les séminaires de Lacan, dans la logique du fantasme, il reprend ce mot de gélification qui est des Winnicott, et il va l'appliquer à l'idée que les signifiants se gélifient. C'est-à-dire qu'il y a une prise en masse, je crois qu'il utilise l'expression, prise en masse des signifiants. Au lieu de dire ça, moi je préfère dire qu'il y a une panne dans la perception et dans l'enregistrement. C'est ça qui me compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole qui s'est produit. Et c'est ça, je dirais que le phénomène psychosomatique, c'est le résultat, l'expression d'une panne dans la symbolisation, d'une non-enregistrement, d'une réalité douloureuse qui aurait dû être enregistrée, mais que le sujet est pris par l'émotion si forte et pris par ce moment des grands dangers n'a pas pu le faire. C'est une hypothèse, mais c'est à travailler, c'est à réfléchir. Voilà ce que je voulais dire pour ces patients. D'ailleurs, ces patients-là, cette pelade universelle, je dois vous dire, je sens qu'il y a quelques-uns qui sont partis, donc ça, je me sens plus en intimité. Et ça donne envie de raconter plus le cas. Parce que moi, j'ai toujours mon scrupule de ne pas trop parler de mes patients. Mais si vous les voyez, ces personnages, c'est homosexuel, il a choisi des perruques qui font peur. Il est dans la salle d'attente, et quand il est dans la salle d'attente avec cette perruque, les gens qui sont à côté, parce que parfois je fais attendre, parfois souvent je fais attendre, et donc il y a la salle d'attente, il y a beaucoup de gens, et tout le monde s'éloigne, parce que ça fait un visage avec une perruque, c'est pas une perruque normale, c'est au contraire. Il met une perruque qui vraiment, ça semble un fou. On a des cheveux partout, c'est très impressionnant. Cet homme-là, il est en train d'échanger. Il me dit l'autre jour, je sais pas. Et ça fait 2 mois seulement que je vous vois, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas le même avec les gens, d'ailleurs dans mon équipe, parce qu'il dirige une affaire, on me dit, mais qu'est-ce que tu as, parce que maintenant tu n'es plus le même, je change avec vous. Et je ne vous cache pas que je me suis dit, et si la pelade commençait à partir? C'est mon rêve, j'ai le droit, moi, thérapeute aussi, de rêver et d'attendre, enfin, ça je m'aimais bien. Je ne crois pas, c'est très difficile. Ça fait plus de 25 ans, de 30 ans qu'il a cette pelade. Donc, je ne vais pas. Mais comme la pelade est arrivée du jour au lendemain, je me dis que peut-être elle peut réapparaître. Les cheveux pourront réapparaître du jour au lendemain. Je vais les saler.
Cela dit, celui qui trouvera la thérapeutique pour que les cheveux des chauves repoussent, ça fera plus d'effet.
Bien, écoutez, on va arrêter là. Je vous dis bonsoir. Je vous demande de l'applaudir, monsieur Lamarche.